Il est 7h57.
Le 7-9. Sur France Inter.
Charline Vanhoenacker, vous revenez sur la conférence donnée par Barack Obama samedi à l'initiative d'un réseau patronal et devant un parterre de Happy Few.
Ouais, c'est génial quand t'as un réseau de patrons de communicants, tu peux te payer une demi-heure avec un maître du monde, comme si t'achetais une nouvelle paire de pompes. Il paraît même qu'il y a un catalogue pour ça, pour acheter une heure avec Clinton, une heure et demie avec Sarkozy. Bon, c'est comme faire le tapin, mais très très haut de gamme. Et samedi avec Obama, le thème c'était l'innovation, un sujet moderne tourné vers la créativité et l'avenir, à l'image du public présent dans la salle. Roselyne Bachelot, Jacques Séguéla, Jean-Pierre Elkabbach ou Jack Lang, que des young leaders venus chercher l'inspiration pour dessiner un avenir à la France. Ils sont tous sortis subjugués. Alors Obama aurait lu l'horoscope qu'ils auraient été subjugués, mais à 400 000 boules de l'heure, il s'est quand même fendu d'un petit discours. Alors Obama a libéré sa parole et n'écoutant que son courage, il a lancé « Il faut remplacer la peur par l'espoir ». Bam, bam, bam ! Punchline de ouf, hein, j'ai calculé. Il faut remplacer la peur par l'espoir. Ça fait 7 mots. En gros, rien que cette phrase a coûté 5 400 €. C'est génial, non? Et regardez la une du JDD. Ce qu'il a dit à Paris. Mais il a rien dit du tout, les gars! Enfin, rien qu'on savait déjà. Alors, toute notre élite du business et du politico-médiatique se fait racketter en public et ils sont contents. D'après la presse, le tout Paris est sorti enthousiaste, car Obama n'a rien dit de spécial, certes, mais il est charismatique et tellement inspirant. Et c'est vrai que ça doit être tellement inspirant de savoir comment on dirige le monde pendant 8 ans, tout ça pour qu'à la fin, ce soit Trump qui gagne. Alors, après le discours, il y a eu une séance de questions-réponses menée par le patron d'Orange, Stéphane Richard, comme quoi on peut avoir été un jour mis en examen dans l'affaire Tapie et avoir eu l'honneur d'échanger avec Obama, pardon. Alors si je résume, le patron d'Orange fait la promo des Napoléons, qui font la promo d'Obama, qui fait lui-même la promo des Napoléons, qui font la promo du patron d'Orange. Samedi, c'était le salon du lobby. Et où ça? À la maison de la radio. Et nous, on s'en fout, hein. On leur a loué l'auditorium, hein. On les a bien fait raquer, les Napoléons. Voilà, et alors François Hollande aussi se lance dans une série de conférences. Alors on sait pas encore quel sera le thème, mais ça m'étonnerait que ce soit le chômage. C'est fou parce que les présidents, quand ils sont aux manettes, ils galèrent toujours pour trouver du blé. Mais dès qu'ils sont à la retraite, il y a plus qu'à se baisser pour ramasser. Vous voyez là par exemple, je viens de me payer 2 minutes Barack Obama et de façon totalement gratuite.
Merci Charline et merci à vous de nous écouter sur France Inter. Il est 8h. Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin, attention, une panne peut en cacher une autre. Deuxième journée noire en 4 mois à la gare Montparnasse à Paris et plus généralement dans tout l'ouest du pays. Le patron de réseau SNCF convoqué dans 1 heure au ministère des Transports. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé et si les leçons ont été tirées à la SNCF. Où s'arrêtera la vague? Succès historique pour les nationalistes corses hier au premier tour du scrutin territorial. 45% des voix, mais près de la moitié des électeurs corses sont restés à la maison. Dans 20 minutes, question sur la reconstruction de la gauche. Sur quelle ligne? Avec quelles femmes? Quels hommes? On en parle, Nicolas, avec votre invité.
Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération. Alors à l'oral, ça se dit Génération. À l'écrit, c'est Génération.S. Il est l'invité donc de France Inter dans une vingtaine de minutes. Vos questions, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la mort de Patrick Henry, l'homme qui avait échappé de peu à la guillotine en 1977. Le mystère Lactalis, 200 000 boîtes de lait pour bébé retirées du marché en raison d'un risque de salmonelle. Mais le géant laitier ne comprend pas ce qui s'est passé. À l'étranger, Donald Trump, le doigt sur le bouton, il pourrait reconnaître aujourd'hui Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les Palestiniens redoutent une flambée de violence. Et puis reportage au Niger sur la route des migrants à la veille d'une journée spéciale sur France Inter. Enfin, le retour de Jean-Louis Murat, nouvel album plus électro à découvrir dans quelques minutes.
France Inter.
Les trains sont de retour ce matin sur les quais de la gare Montparnasse après une nouvelle journée noire dans la gare parisienne, mais aussi dans tout l'ouest du pays, Rennes, Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Des dizaines de trains annulés, 20 000 passagers impactés et un agacement qui ne retombe pas comme celui de cette mère de famille, Frédéric, qui vient de déposer son fils dans le train à Paris ce matin.
On a pris le premier train du matin, on s'est levé aux aurores. Après, moi, il faut que je retourne embaucher à 3/4 d'heure de route d'ici. C'était le prix à payer pour qu'ils puissent voyager dans des conditions à peu près correctes. J'ai entendu à la télé hier soir que certains avaient reçu des messages sur leur téléphone. Moi, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, je commande mes billets sur le site. Il y a mon numéro de portable où je note que j'accepte d'être informé s'il y a quoi que ce soit. Moi, je n'ai eu aucun message sur mon portable. Parce que j'aurais su ça en cours de route hier, je pense que j'aurais rebroussé chemin directement. On était un petit peu désemparés hier, c'était un peu compliqué.
témoignage recueilli par Thibault Lefèvre alors que le patron d'SNCF Réseau est convoqué dans un peu moins d'une heure maintenant dans le bureau de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui hier a jugé cette situation inacceptable, rappelant que c'est la deuxième fois en quatre mois que la gare Montparnasse est paralysée. Alors que peut-il annoncer tout à l'heure? D'abord, une meilleure information sans doute des usagers en cas de crise. Ça ne ramènera pas les trains, mais ça aide au moins à comprendre ce qui se passe. Patrick Jeantet, le patron d'SNCF Réseau.
Il faut refondre les standards de l'information. Il faut être normé, il faut être industrialisé sur l'information et non pas imaginer à la dernière minute ce qu'on va dire à nos clients. Et pour ça, il faut des standards. Il faut se dire, au bout de 5 minutes, voilà ce qu'on dit. Au bout de 10 minutes, même si on n'a pas encore reconfiguré le plan de transport, voilà ce qu'on va dire à nos clients. En gros, il faut leur raconter l'histoire de ce qu'on fait. Parce que hier, on avait des centaines d'experts qui étaient en train de chercher cette erreur. Et ces centaines d'experts, ben, il faut raconter, voilà ce qui se passe, voilà. On s'occupe de vous. Certes, les trains ne sont pas encore là, mais on s'occupe de vous. Et puis, évidemment, après, il faut annoncer dès que les trains sont remis en ordre.
Patrick Jeantet avec Hélène Roussel ce matin dans le 5-7 d'Inter en juillet dernier. C'est une panne qui avait provoqué le blocage de la gare. Hier, c'était un bug informatique. Bonjour Michaël Thébault.
Et bonjour Marc.
On pourrait se dire que rien n'a changé entre ces deux journées noires. Et pourtant, la SNCF a bien tiré les leçons.
Et c'est sans doute très difficile à entendre pour les milliers de passagers bloqués hier. Mais oui, effectivement, la pagaille a été en quelque sorte mieux gérée. D'abord, et tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de trains et de voyageurs concernés qu'en juillet dernier. Et puis surtout parce que la SNCF, c'est vrai, a progressé depuis le bug de l'été. Hier, par exemple, il ne s'est écoulé que 10 minutes entre la paralysie totale du système d'aiguillage et la mise en place d'un plan de trafic de secours via la gare d'Austerlitz. Un plan B que l'entreprise n'avait pas pu enclencher en juillet dernier. Cette fois donc, le scénario était prêt. Certes, un peu chaotique, mais au moins anticipé. Leçon tirée également en matière d'information, même si là encore, les voyageurs ne s'en sont peut-être pas aperçus. Hier, l'information a mieux circulé et surtout, ça paraît tout bête, mais elle était la même d'un quai à l'autre et d'un panneau à l'autre, ce qui n'avait pas été le cas en juillet dernier. Et c'est sur ce point que la SNCF promet de mettre le paquet. 150 millions d'euros investis entre 2018 et 2020. Ça n'empêchera pas les bugs informatiques, mais les conséquences seront un peu moins pénibles pour les usagers.
Bon, c'était pas terrible, mais ça aurait pu être bien pire, hein, si exact. Vous avez bien compris. Merci Michaël Thébault.
45% des voix au premier tour. C'est un raz-de-marée, Marc, un raz-de-marée nationaliste qui a touché la Corse hier.
Premier tour des élections territoriales, victoire sans appel, même si à peine plus d'un électeur sur deux est allé voter. Les nationalistes emmenés par Gilles Simeoni sont bien partis pour conserver la région dimanche prochain. Eux, qui contrôlaient déjà la collectivité sortante, la mairie de Bastia, et ainsi que 3 sièges de députés sur 4. Bonjour Cyril Graziani. En direct Bonjour. De Corse, où l'on se demande désormais ce qui pourrait freiner cette vague. Comment cette victoire a-t-elle été construite ?
Patiemment et savamment, les nationalistes sont longtemps restés en retrait dans le paysage politique corse. Le point de départ de leur enracinement, c'est la victoire de Gilles Simeoni au municipal de 2014 à Bastia. Quelques semaines plus tard, avec le dépôt des armes du FLNC, c'est une vision apaisée de leur politique qu'ils ont tenté de donner, montrer que la violence était derrière eux. Depuis, ils engrangent les victoires. Les régionales de 2015, 3 sièges sur 4 législatives en juin dernier. Les nationalistes peuvent compter sur une jeunesse mobilisée, politisée. Il n'y a qu'à voir dans les soirs de meeting. Les jeunes Corses se reconnaissent en cette aspiration plus d'autonomie, avec une volonté en plus de prendre son destin en main. L'autre force des nationalistes, c'est d'avoir su rassembler au-delà de la famille corse, au-delà des Corses. Ils ont réussi à attirer des électeurs arrivés sur l'île il y a quelques années. La Corse fabrique des Corses, a-t-on coutume de dire ici. Preuve en est depuis hier soir.
Cyril, les nationalistes ont 30 points d'avance sur la liste de la droite régionaliste, arrivée deuxième avec 15% des suffrages. Derrière, l'autre liste de droite et celle de La République En Marche sont au coude à coude, autour de 12%. Alors y aura-t-il des alliances et un front commun dimanche prochain pour faire battre les nationalistes ?
C'est ce qui était évoqué la semaine dernière, mais avec le résultat choc d'hier soir, le Front républicain ne semble plus du tout à l'ordre du jour. Les deux listes de droite pourraient s'unir, mais ne peuvent plus peser dimanche prochain. La République En Marche, quatrième hier soir, à près de 35 points des nationalistes, ne souhaite plus cette fusion, qui serait, on peut le dire, contre nature et contre-productive. Ce matin, politiquement, hormis chez les nationalistes, c'est un champ de mine. La gauche disparaît du paysage territorial et personne ne semble en mesure de contrecarrer les plans des nationalistes. journalistes. À Paris, il y a des sueurs froides à prévoir dans les prochains mois.
Merci Cyril Graziani. Encore quelques chiffres. Le Front National est en chute libre en Corse, à peine 2% des voix. Il voit son score divisé par 4 par rapport au dernier scrutin régional. Et puis la participation, elle aussi, a été en net recul. Elle n'a été hier que de 52%.
8h07, que s'est-il passé chez Lactalis?
Après le retrait de la vente de 200 000 boîtes de lait infantile, le groupe va faire analyser tous les stocks encore présents dans ses entrepôts. Une vingtaine de nourrissons sont tombés malades ces derniers mois après avoir bu ce lait, peut-être à cause de la salmonelle. Mais le directeur général de Lactalis Nutrition Santé, Arnaud Boinard, le reconnaît. Il ne comprend pas ce qui s'est passé.
Tous les résultats d'analyse en notre possession, analyses qui sont réalisées systématiquement avant libération des lots, sont conformes en salmonelle. Suite aux informations transmises vendredi soir, nous avons réalisé avec nos équipes mobilisées tout le week-end des prélèvements d'échantillons complémentaires. Nous avons transmis ces échantillons à des laboratoires accrédités extérieurs de manière à renforcer les analyses et identifier une possible cause puisque, je vous le rappelle, 100% des produits que nous avons commercialisés avaient des résultats conformes sur le critère salmonelle.
Arnaud Boinard avec Alexis Morel. Le numéro vert mis en place hier a été complètement débordé. 14 000 appels en une journée. Il était quasiment injoignable. Il avait échappé de peu à la guillotine avant de passer 40 ans en prison. Patrick Henry est mort hier des suites d'un cancer. Condamné pour l'enlèvement d'un petit garçon de 7 ans en 1977, il avait évité la peine capitale grâce à la plaidoirie de l'un de ses avocats, Robert Badinter, qui allait 4 ans plus tard abolir la peine de mort. Sarah Guibaudot.
30 janvier 1976, le petit Philippe Bertrand est enlevé contre une rançon d'1 million de francs. Patrick Henry, 22 ans, est arrêté puis relâché et clame son innocence.
Écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon.
Le garçonnet est déjà mort, son corps sera retrouvé 2 semaines plus tard.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
La France a peur.
La foule devant le palais de justice de Troyes demande la tête de Patrick Henry. Verdict, la réclusion à perpétuité, son avocat Robert Badinter.
Se prononcer à propos du problème de la peine de mort dans l'abstrait, c'est, je dirais, commode. Vient le moment de la réalité. Vous devez vous jurer, décider que vous allez tuer quelqu'un qui est devant vous.
Vous n'aurez pas à le regretter, lance Patrick Henry. Détenu modèle, il est libéré en 2001, mais réincarcéré l'année suivante pour trafic de drogue. La justice lui refusera ensuite toute libération conditionnelle, malgré le soutien de Martine Weiss, une visiteuse de prison devenue son amie.
C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il a arrêté de se battre dans l'espoir de sortir. Et il est sorti que par la maladie. Non. Son nom véhicule la haine. Il portait un costume trop grand. Hein.
Martine Weiss se félicite que Patrick Henry soit mort entouré de ses proches et sans regard hostile.
Patrick Henry qui était sorti de prison donc en septembre dernier pour des raisons médicales. Il avait 64 ans.
Inter 8h10, direction le Niger, à présent sur la route des migrants.
C'est là que les envoyés spéciaux de France Inter vous raconteront demain la vie de ces milliers d'Africains partis en quête d'Europe. Journée spéciale, mais en voici tout de suite un aperçu. Nous sommes à Agadez, dans le centre du Niger. C'est là que l'Organisation internationale des migrations accueille provisoirement 250 migrants des rescapés. Ils étaient partis en Libye, ils y ont vécu l'enfer. Géraldine Allot et Eric Audra ont rencontré un jeune Guinéen évacué de la Libye il y a tout juste une semaine.
Dans la chaleur étouffante d'Agadez, il porte une improbable doudoune rouge. Il l'a achetée chez lui, en Guinée, c'était il y a un an, avant son grand départ. Sa famille lui avait dit « il faut bien ça pour affronter le froid en Europe ». Mais Mamadou Baleyal n'ira pas en Europe. Son rêve s'est fracassé en Libye.
Ça s'est passé à Zabrata. J'ai vu beaucoup de choses quand même. On était dans le foyer. Ils nous ont enfermés, on ne connaît pas là où on est. On viole les femmes, même devant nous. On ne peut rien faire. Il appelle ma famille d'abord, on me frappe. Ma famille entend voir que j'ai entendu pleurer. S'ils ne déposent pas l'argent, ils vont me tuer là-bas.
Après plusieurs mois de détention, Mamadou est libéré, sa famille a versé les 500 euros que demandaient les ravisseurs. Son ami et co-détenu n'a pas eu cette chance.
Ils ont fait appel vidéo, ils ont cassé son bras.
Ses geôliers lui ont cassé le bras, car l'argent n'arrivait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant?
Moi, ce que je voulais faire maintenant, je me retourne chez moi, parce que je ne peux pas aller risquer ma vie encore. Maintenant, ce que j'ai vu là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué. J'ai vu avec ma propre vie. Donc maintenant, le clan de celle-là, c'est bon, je vais rentrer chez moi. C'est ça, je vais rentrer chez moi.
À Agadez, Mamadou se reconstruit. Il prépare son retour en Guinée, qui sera financé par l'OIM. Quand on lui demande quel est son rêve désormais, il répond être chauffeur de taxi dans mon pays, comme avant.
Et rendez-vous demain dans le Zoom à 7h15, dans Un jour dans le monde à 18h et dès maintenant avec les photos, les vidéos de nos envoyés spéciaux sur franceinter.fr. Ce serait une petite bombe diplomatique. Donald Trump pourrait annoncer aujourd'hui le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui signifierait une reconnaissance de Jérusalem comme capitale du pays. Donald Trump en avait fait la promesse lorsqu'il était candidat. Quasiment toute la communauté internationale s'y oppose aujourd'hui et les Palestiniens se lancent dans une course diplomatique pour éviter cette décision. À Tel Aviv, Marie Semelin.
Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, le président turc ou encore le roi de Jordanie, Abdallah II, c'est avec 8 chefs d'État et de gouvernement que Mahmoud Abbas, le président palestinien, s'est entretenu ce week-end. Il essaierait également d'obtenir une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Depuis 72 heures, les responsables palestiniens sont sur le pont. Un marathon diplomatique avec un objectif, convaincre que pour eux, une telle démarche signerait la mort du processus de paix, déjà bien mal en point, et pousserait la région dans une situation incontrôlable. Dans la bande de Gaza, le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, a lui menacé d'une nouvelle intifada si le président Trump s'alignait sur la position israélienne. Les responsables de l'enclave se sont aussi accordés avec ceux de Cisjordanie pour soutenir des marches de protestation ce mercredi dans tous les territoires palestiniens. Tel Aviv, Marie Semelin, France Inter.
Un déjeuner et l'addition, c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître la facture du Brexit pour les Britanniques. Elle sera au menu d'un déjeuner entre la première ministre britannique Theresa May, le président de la Commission Jean-Claude Juncker et le négociateur en chef européen Michel Barnier. Encore une institution éclaboussée par un scandale sexuel. Cette fois, c'est l'un des temples de la musique, le Metropolitan Opera de New York. Il vient de suspendre son directeur musical honoraire James Levin, suspecté d'agression sexuelle dans les années 80. Avant-hier encore, il dirigeait le Requiem de Verdi, qui sera donc son tout dernier. Le football et Marseille qui cale. Hier soir en Ligue 1, l'OM tenu en échec un partout à Montpellier cède la deuxième place au classement à Lyon. Les Lyonnais vainqueurs à Caen un peu plus tôt, 2-1. Et puis au Mondial féminin de handball, la France relève la tête. Première victoire en deux matchs hier soir face à l'Angola. 26-19 pour les Bleus. La qualification pour les huitièmes de finale se jouera demain face au Paraguay.
Et on termine en musique, Marc.
Avec le retour de Jean-Louis Murat, 17e album intitulé « Travaux sur la RN89 », à la fois électronique, expérimental, tordu et délicat. C'est en tout cas ce que Mathieu Culeron en a pensé.
C'est top, tu te moques, t'attrapes les pires du chat.
Au départ, Jean-Louis Murat avait mis ce nouvel album à la poubelle. Ce sont ses amis qui l'ont incité à le récupérer et à persister dans l'idée de faire un disque entièrement électronique, un exercice déjà effectué dans le passé.
Déjà en 77, je travaillais avec une boîte à rythme et une machine et je fais ma première télé à Clermont-Ferrand avec une boîte à rythme.
Efface ces traces.
Travaux sur la N89 est un album audacieux de Jean-Louis Murat, mais c'est surtout un disque émouvant, quitte à parfois décevoir les fans de la première heure.
Comme d'habitude, tous les 10 ans, je laisse à peu près la moitié de mes fans sur le bord de la route. Je prends pas mes fans pour des cons, donc je leur fais des propositions différentes à chaque fois. Depuis 15 ans, ils me voient, ils se sont dit « Ouais, super, un Neil Young ». Un Neil Young du Puy de Dôme, et d'un seul coup, ils se disent « Mais merde, c'est quoi cette histoire ?»
Reste à savoir si Jean-Louis Murat va se décider à revenir sur scène avec ce nouveau disque, mais le chanteur a l'air de camper sur ses positions.
La pizza, prendre 10 kilos pendant chaque tournée, se bourrer de barres chocolatées et de cacahuètes, j'ai un peu ras-le-bol.
Avec Travaux sur la N89, Jean-Louis Murat ose le changement, s'ouvre de nouvelles perspectives, avec talent et une sorte d'insouciance.
Hannibal est parti. M'a repris le jouet, Condorcet est foutu, importe coupé, pris dans le givre du temps.
Voilà, la pizza, les cacahuètes, les 10 kilos de prix, Nicolas, c'est pour ça qu'on fait pas de musique, vous et moi. Hein.
Jamais. Merci Marc Fauvel. Un mot de météo à 8h16, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Marie-Pierre, oui. Les brouillards sont de plus en plus nombreux.
Effectivement, du nord à la Picardie aux Ardennes, également sur les régions de l'ouest et du centre de Rennes à Bourges, en descendant vers la région bordelaise, mais aussi dans l'est du plateau de Langres au Val-de-Saône. Alors ce matin, le temps restera très nuageux, couvert et brumeux sur les deux tiers du pays. Sur les côtes atlantiques, quelques rayons de soleil vont tenter une percée. Puis autour de la Méditerranée, du soleil mais du vent. Et c'est sur ces régions que le soleil se lève avec des gelées très rudes. Moins 11 dans les Alpes de Haute-Provence, moins 8 dans la Drôme ou le Vaucluse, moins 4 à Marseille, moins 1 à Épinal et Mont-de-Marsan et Aurillac. Cognac, où hier il a fait quand même, je le rappelle, moins 12. Il fait 2 dans la Creuse, 3 Poitiers et 6 à Paris.
Et ça ne va pas beaucoup évoluer cet après-midi.
Non, dans l'Est, le temps va rester très nuageux. On pourrait avoir à nouveau quelques flocons. De la Bretagne à la Côte Basque, les éclaircies seront plus belles. Et des Hauts-de-France à l'Île-de-France aux Cévennes, le ciel restera gris, il fera soleil près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles vont afficher un léger redoux. Météo France prévoit au plus bas 2 en Haute-Marne, 3 à Nancy, vous aurez 4 à Strasbourg et Lyon. Il fera 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Paris, 9 à Carcassonne, comptez 10 à Nantes, 12 à Hendaye. Et ça va monter jusqu'à 13 Perpignan, Montpellier et Ajaccio.
Merci Marie-Pierre.